président, pour faire quoi et avec qui?
Directs et reportages, réactions à l'étranger, analyses et commentaires avec nos politologues et Patrick Jarrot du journal Le Monde.
Et des débats avec nos invités, quelles alliances pour quelle majorité pour ce nouveau quinquennat?
Élection présidentielle, deuxième tour.
Une soirée spéciale en partenariat avec France 2, Le Monde et Le Point, avec Ipsos Logica Business Consulting.
À suivre sur France Inter, dimanche, à partir de 18h30.
Et suivez-nous aussi toute la journée sur franceinter.fr.
À dimanche.
France Inter. La différence.
Et c'est l'heure de la Bastille. J'y suis avec Daniel Mermet et Bip.
Oui, bonjour, c'est Frédéric de l'Ardèche. Eh ben, je suis dans la manif, là. On est le 1er mai et il y a pas mal de monde. Je suis à Annonay. C'est une petite ville du nord de l'Ardèche. Il y a de l'ambiance. Il y a de la musique, voilà. Bonjour à tous, à bientôt.
Ouais, je viens d'apprendre que Marine allait voter blanc. Elle aurait dit qu'elle aurait voté noir, je l'aurais pas cru. Joël, à Tiroche.
Ouais, salut Daniel et toute l'équipe, c'est Edgar et Gaëtan. Là, on est à la manif du 1er mai à Saint-Brieuc. Donc apparemment, grand succès, 3000 personnes, voilà. Donc on lâche rien, on lâche rien. Salut.
Ça y est, j'ai enfin compris. C'était ce matin en écoutant Jean-François Copé. J'ai enfin compris que pour que tout aille mieux, il suffisait d'abaisser le coût salarial. J'ai enfin compris qu'en rétablissant l'esclavage, ce serait le retour de la croissance, donc du plein emploi. C'est tout simple. Peut-être même qu'après, on pourrait alors rétablir le travail des enfants dans les mines, il suffirait de les ouvrir. Et la France serait enfin un pays compétitif. C'était Jean-Marc, en Auvergne.
C'est Chantal, une amie institutrice à Libourne, et la bassigiciste de la première heure, qui s'est souvenue de cette poésie qu'elle avait proposée à ses élèves de CM2 dans l'école où elle exerçait l'an dernier, à Vert, à côté de Libourne. C'est une poésie de Victor Hugo, Mélancolia. C'est un texte magnifique, daté de juillet 1838, et qui préfigure d'ailleurs Les Misérables. Alors Hugo, bien sûr, il dénonce la misère. Et un paragraphe est consacré à la dénonciation du travail des enfants. Et je vais vous lire un extrait qui, donc, s'il ne s'applique plus au travail des enfants, est toujours valable pour ce qu'on appelait le travail aliénant. Écoutez ça. Travail dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans les cœurs, la pensée. Et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain, d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin. Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne en somme une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail haï des mers soit maudit. Maudit comme le vice où l'on s'abattardit, maudit comme l'opprobre et comme le blasphème, ô Dieu, qu'il soit maudit au nom du travail même, au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Alors, ce que je trouve extraordinaire à la lecture de ce texte, de cette poésie de Victor Hugo, c'est que le vrai travail, il est appliqué exactement à l'inverse de celui que, par cette expression, Sarkozy qualifie. Le vrai travail est pour Sarkozy celui de ceux qui se taisent, de la majorité silencieuse, qui supporte sans rien dire, celui qui fait fermer sa gueule aux ouvriers. Pour Hugo, c'est exactement l'inverse. Le vrai travail, c'est celui qui émancipe. Celui, je vous relis ça, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Eh ouais, il n'y a pas photo, quoi. Sarkozy et Hugo, c'est pas du tout le même registre. Et il aurait mieux fait de fermer sa gueule, Sarkozy, plutôt que d'essayer de citer Hugo. C'est un blasphème de la part de Sarkozy de citer Victor Hugo.
Merci, chers auditeurs. Merci, Claude, pour ce message. Aujourd'hui, la victime, l'émotion et la règle, deuxième partie, avec l'Institut pour la justice et ceux qui critiquent cet étrange institut. Donc ça, c'est la deuxième partie. Mais auparavant, 1er mai à Paris, trois reporters de la Bastille, j'y suis, étaient sur le coup à Place des Fêtes. Oui, la CNT et les anards fêtaient le 1er mai à leur façon. Le Front National entre le Palais Royal et l'Opéra, et puis l'UMP de Nicolas Sarkozy au Trocadéro. Gaylor, Sarah, Antoine, 1er mai.
Début hein, de la manifestation Front National du 1er mai, c'est les premiers levés ce matin pour se réunir ici rue de Rivoli, juste à côté du Palais du Louvre. Et là on est en plein milieu de la manif et il y a tous les jeunes du Front National autour qui brandissent les drapeaux.
Moi j'entends la France est à nous depuis oui. Le début du défilé.
Tout à fait.
Ça veut dire quoi?
Ben, la France est aux gens qui l'aiment. Il y a très longtemps, alors que je n'étais pas membre du Front National, je me souviens d'un slogan « Aimez la France ou quittez-la ». Ça veut tout dire, c'est-à-dire on peut être, quelle que soit votre origine, à partir du moment où vous aimez un pays et vous le respectez, vous êtes le bienvenu. À partir du moment où vous voulez vous imposer dans un pays, vous n'êtes pas le bienvenu. Je fréquente les banlieues et je peux vous dire qu'il y a des gens qui vivent dans des ghettos et je trouve ça scandaleux. Des gens qui ont travaillé toute leur vie, hein, qui ont élevé des enfants dans des cités et qui maintenant se retrouvent prisonniers de leur environnement. Ce ne sont pas les immigrés, les minorités. Actuellement, les minorités, ce sont les Français.
Et vous me dites que vous faites du social, mais qu'est-ce que vous faites concrètement alors dans ces banlieues?
Les gens qui ont des problèmes, je m'en occupe, je leur fais des dossiers. Si on veut leur faire de la correspondance, je leur fais de la correspondance.
Vous faites du service à la personne?
Je fais du service à la personne bénévolement.
Vous êtes à la retraite?
Absolument.
Comment vous appelez?
Gérard, c'est déjà bien.
Et vous habitez où en banlieue?
J'habite dans le Var, dans le sud de la France. Souvent le Front National, que j'ai suivi à distance pendant des années, a été qualifié de parti intolérant. Et je constate simplement que si tous les partis avaient un dixième de la tolérance que nous avons, nous, vis-à-vis des autres, je pense que la démocratie évoluerait dans un bon sens.
Donc le Front National démocrate?
Le Front National est un parti totalement démocrate.
Donc alors, pour résumer, vous Gérard, vous attendez les consignes
de Marine
Le Pen,
tout à fait.
Qui va avoir lieu. Là, tout de suite, on est arrivé juste au pied de l'Opéra... avec un énorme panneau où c'est noté « Oui la France », un gros drapeau bleu-blanc-rouge et puis Jeanne d'Arc à côté.
L'étendard bleu-blanc-rouge est très représentatif de notre pays. Il a été brandi sur tous les champs de bataille. Derrière, on voit en arrière-plan une belle campagne verdoyante avec des villages, c'est très beau. Jeanne d'Arc, que pour nous, vous avez fait partie d'une autre génération, pour nous ça a été l'emblème de la France et de la sauvegarde de la France. Je trouve ça très beau, j'apprécie beaucoup ce panneau.
Et puis rappelons... que effectivement le Front National n'est pas tout ce qu'on dit et tout ce que disent
absolument.
Ces fameux médias, c'est pas un parti fasciste, c'est pas un parti raciste, non. Et c'est pas un parti xénophobe, vous luttez contre ça.
Absolument.
Il est là, il y a 10 euros le kilo seulement. Allez, faites-vous plaisir.
Alors aujourd'hui c'est mardi, c'est marché Place des Fêtes à Paris dans le 19e arrondissement. Mais c'est aussi le 1er mai, c'est mardi 1er mai. Donc c'est le traditionnel défilé de la CNT pour la fête du 1er mai qui démarre d'ici. Donc voilà, au coin de la rue Petitot et de la rue des Fêtes, grève générale expropriatrice et autogestionnaire, fédération-anarchiste.org. Alors aujourd'hui, il y a quelques cortèges qui vont sillonner la ville. Hein.
Oui, oui.
Alors ici, c'est le premier. Hein. C'est le premier de la matinée. Ah non, c'est pas
non,
le premier, malheureusement.
Il y a eu le FN ce matin.
Alors, c'est particulier cette année ou pas?
Pas plus, non. Non, non. On est là tous les ans et on sera là tous les ans. Donc, on n'est pas mu nous, par l'actualité. Hein. Nous, on a nos idées, on persiste dans nos idées. On essaye de les développer, voilà, donc le pourquoi du comment de notre présence aujourd'hui. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est une société égalitaire, libertaire. Ensuite, à Bastille, bah, ceux qui sont investis dans d'autres syndicats rejoindront la manif syndicale d'enfer. On est beaucoup ici à être impliqués dans les organisations syndicales aussi. Et je dirais même que c'est notre place. Si on veut changer la société, on a intérêt à être là où c'est possible, là où on peut. Et on fait ce qu'il faut.
Il y a du monde, non, j'ai l'impression.
Oui, oui, mais c'est assez régulier. Tous les ans, il y a toujours un peu de monde, oui. Oui, oui.
Un petit millier de personnes, quoi, à peu près.
On espère plus, mais objectivement, oui, déjà, si on est 1000, c'est bien. Mais en fait, c'est pas le chiffre qui fait son importance. Hein. C'est d'être présent dans la rue, faire voir qu'on est partout chez nous.
On va vers Bastille aujourd'hui. C'est un peu différent puisque la manifestation traditionnelle du 1er mai ne porte pas de République. Donc on va aller à son arrivée, nous, place de la Bastille. Donc le trajet est un peu plus long, voilà. Qui sème la misère,
récolte de la colère,
révolution
sociale et libertaire.
Qui sème la misère,
récolte de la colère,
révolution
sociale et libertaire.
Prenez
vos drapeaux,
le drapeau,
drapeau bleu, blanc, rouge.
Merci.
Prenez vos drapeaux.
On est place du Trocadéro avec les militants UMP et les gens commencent à arriver en masse, à sortir du métro. Et on est avec Frédéric, c'est ça ?
Alexandre.
Alexandre, pardon. On est avec Alexandre, militant UMP, qui distribue les drapeaux à la sortie du métro.
Oui, les drapeaux français, à tout le monde qui vient au meeting.
Ils ne sont pas que rouges, ils sont bleu, blanc, rouge.
Ils sont pas que rouges, parce qu'il y aura des drapeaux rouges partout de l'autre côté de Paris. Donc nous, on distribue des drapeaux bleu, blanc, rouge. Moi, je suis commercial.
Commercial. Dans quel domaine ?
Dans l'agroalimentaire. Une des valeurs fondamentales de la droite, c'est la valeur travail. C'est la fête du travail, donc pourquoi pas faire une grande réunion publique avec Nicolas Sarkozy dans la rue ?
Valeur travail, moi, j'ai jamais compris exactement ce que ça recouvrait.
La valeur du travail, c'est la valeur du mérite. C'est le travail aussi qui révèle l'homme, qui l'exalte, qui lui permet d'exister parce qu'il fait quelque chose de sa vie, qui lui permet de nourrir sa famille, de développer des compétences qui fait qu'il va exister lui-même. C'est ça qu'on entend par la valeur travail. Aujourd'hui, il y a des Français qui en ont marre, par exemple, de payer trop d'impôts alors qu'ils travaillent toute la journée, comme profession libérale ou des gens qui sont sur les marchés, par rapport à des gens qui viennent, on va dire, un peu profiter du système.
Vous travaillez beaucoup, Alexandre ?
Oui, pas mal, ouais. 10 heures par jour, je me suis fait tout seul, je viens de la fac, j'ai grandi dans l'entreprise qui m'a accueilli et qui m'a permis d'être aujourd'hui à un poste intéressant. L'entreprise a de plus en plus un rôle citoyen, donc aujourd'hui il y a des entreprises qui mettent en place des services pour leurs employés, leurs cadres, leurs salariés, qui leur permettent justement d'avoir une bonne compatibilité entre le travail qu'ils font et la vie privée qu'ils ont. Puisqu'on le sait aujourd'hui avec la mondialisation, si on veut être compétitif, il faut améliorer notre productivité. Donc l'entreprise fait tout aussi pour aider aujourd'hui le salarié. Alors c'est des services comme les crèches, ça va être comme la teinturerie, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est important. L'entreprise a pris conscience qu'il fallait rendre service à ses salariés aussi. Et c'est important si on veut rester dans la compétition mondiale. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer ? On perdra nos boulots, on sera plus compétitif. Et c'est les autres pays étrangers qui vont exporter leurs produits chez nous. Et dans ce cas-là, on est mort.
Voilà, quelques échos du 1er mai à Paris, ça continue. Actuellement, les cortèges des syndicats, la CGT, etc., se mettent en place à d'enfer pour un défilé, une marche jusqu'à la Bastille. Nous, on aborde le deuxième volet de notre sujet sur la victime, l'Institut pour la justice. On l'a découvert pour certains d'entre vous hier, qui bien sûr se dit apolitique, est un lobby qui souhaite plus de prisons, plus de peines, plus de condamnations, plus d'enfermement, plus de punitions. C'est des choses qu'on a entendues et qu'on entendra encore, mais enfin, sans doute, dans les jours qui viennent, au cours de cette campagne, entre finalement deux conceptions de la justice, la répression et la prévention. C'est deux courants, deux façons de voir les choses, de philosopher depuis très très longtemps, et qui là s'affrontent sur ce thème-là, mais qui se présentent, je parle de la répression, avec un visage nouveau qu'on va découvrir pour la deuxième partie aujourd'hui, l'Institut pour la justice. Auparavant, encore quelques... Non, il n'y a pas d'autre message. On attaque tout de suite.
Madame, Monsieur, attention, le message qui va suivre peut choquer les personnes sensibles. Mon nom est Laurence Avel et je suis secrétaire nationale de l'Institut pour la justice, la plus grande association d'experts, de victimes et de citoyens qui traite des problèmes de justice en France. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une mobilisation nationale suite au meurtre de Laetitia Perret à Nantes.
Ce que fait l'Institut pour la justice, c'est une sorte de storytelling dramatique.
Car ainsi que vous le savez certainement, Tony Meillon, le principal suspect, était un criminel violent, multirécidiviste.
Mais encore une fois, se fixer comme objectif la disparition pure et simple du crime, ça ouvrira la porte à tous les abus, à toutes les dérives possibles, sans jamais obtenir un résultat. Même dans les sociétés les plus policières du monde, il y a toujours du crime.
Tant que notre loi ne changera pas et qu'on ne prévoira pas des peines adaptées, dissuasives et qui permettent réellement de débarrasser la société des sadiques dangereux, nous sommes condamnés à voir encore et encore des jeunes femmes de notre pays se faire atrocement assassiner.
On est dans un fantasme totalitaire extrêmement inquiétant. Le pouvoir de punir dans une démocratie, il appartient à la justice, il n'appartient pas au pouvoir exécutif.
Oui, c'est la séparation des pouvoirs.
C'est la séparation des pouvoirs. Là, vous touchez un pilier de la démocratie.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis avec Guy Van Cotil, la victime, la règle et l'émotion. Il manquerait plus qu'ils s'en sortent.
Flight number 2, arriving from...
Madame, monsieur, je m'appelle Joël Sancier, j'ai 52 ans et 30 ans de police derrière moi. Un de mes enfants, Jérémy, a été tué par un groupe de jeunes alors qu'il rentrait à la maison. Ces jeunes, pour certains, bien connus des services de police, se sont déchaînés sur Jérémy, simplement parce qu'il était fils de flic. À 10 contre 1, ils l'ont tué avec une barbarie inimaginable selon les témoins et les médecins légistes. Mais le 16 septembre dernier... la justice a décidé de relâcher pour vice de forme le dernier qu'elle détenait encore. Cet individu est pourtant le danger public qui a avoué être l'auteur de multiples coups de couteau sur notre fils. Un coup qui a traversé son cœur, un coup qui a traversé sa boîte crânienne et d'autres qui l'ont défiguré. Mais la justice l'a libéré pour vice de forme. Quel vice de forme ! Il a donc été immédiatement libéré. C'est pourquoi je vous demande de cliquer sur le bouton ci-dessous pour signer votre pacte 2012. Au nom de mon enfant, de ma famille et de mon pays, je vous dis merci.
Vous êtes ému, vous êtes bouleversé par ce témoignage et vous êtes comme des centaines de milliers de Françaises et de Français qui ont appuyé sur le bouton pour signer le pacte 2012 de l'Institut pour la Justice. C'est l'émotion, on est saisi, on est apeuré aussi pour soi-même, on se dit mais ça va arriver à mon fils, on éprouve un sentiment de colère également, et très vite on éprouve un sentiment de se venger. Qui n'a pas été à un moment ou à un autre la proie de ce genre de sentiments et qui n'a pas été parfois dans des foules lyncheuses, soudain la foule qui va lyncher. Ça m'est arrivé, ça vous est sans doute arrivé aussi, ce moment où collectivement on est pris de cette rage collective lyncheuse. C'est contre ça qu'on a réfléchi, qu'on a fait des lois, qu'on a essayé de juger, qu'on essaye de juger calmement, en conscience, avec la raison et avec le temps, au bout d'une enquête qui respecte bien sûr, je parle de la justice, et la souffrance de la victime, et aussi les droits de celui qui est présumé coupable. Et tout ça se fait au nom du peuple français, au nom des lois laborieusement établies avec le temps, avec les savoirs accumulés, avec les idées du temps et qui s'enrichissent et qui parfois aussi se dévoient. Voilà. Et là, il y a toujours la persistance des partisans du bâton, des partisans de la force, des partisans de l'ordre, des partisans de la sévérité. C'est l'image d'une certaine droite, celle qui en a dans le pantalon et qui se dégonfle pas et qui vise toujours une gauche qui serait avachie, mollassonne, qui serait toujours du côté de l'assassin. C'est caricatural ce que je dis, mais les sentiments qui sont éprouvés souvent ne le sont pas moins. Et s'il y a de ces profiteurs d'abîmes, de ces habiles démagogues qui savent à chaque fois qu'un crime odieux se produit, immédiatement exploiter l'émotion collective en fusion pour leur cause et pourquoi pas pour rapporter des voix à tel ou tel parti. C'est ce dont soupçonnent certains vis-à-vis de l'Institut pour la justice. On les a entendus hier, on va les retrouver aujourd'hui, des magistrats, des avocats, des juristes qui sont très sceptiques et qui se battent et qui apportent des arguments face à cet institut qui, on va le voir, on l'a vu hier, et vous le savez peut-être, est très dynamique, très très dynamique, et gagne des points dans l'opinion et des voix dans le monde politique. La victime, l'émotion et la règle, c'est la bascule qui suit.
Tu as volé mon enfant, versé le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera, j'aurai ta peau, tu périras. Tu m'as retiré du cœur et la pitié et la peur. Tu n'as plus besoin d'avocat. Les bons jurés qui s'accommodent des règles prohibées, règles prohibées. À tes côtés, les philosophes, les imbéciles, parce que ton père était débile, te pardonneront, mais pas moi.
Xavier Bébin, bonjour. Vous nous recevez à l'Institut pour la justice, dont vous êtes le délégué général. L'Institut pour la justice souhaite plus de prisons, plus de monde en prison.
Pour résumer, trois points. Égalité des droits pour les victimes dans la procédure pénale. Une application effective des peines qui sont prononcées, qui implique, c'est vrai, davantage de places de prison. Et une prise en compte davantage de la dangerosité de certains criminels et des mesures qui doivent s'imposer pour les neutraliser.
D'accord, donc ça fait plus de prison, plus de monde en prison, puisque il faut qu'ils y restent, ça fait plus de monde en prison.
Il y a 80 000 peines de prison, voilà, qui sont en attente des exécutions. Nous, on estime que les magistrats sont pas particulièrement répressifs en France et que s'ils donnent des peines de prison, c'est que la personne doit aller en prison. Et donc il faut que les peines soient exécutées. C'est la crédibilité même du système judiciaire qui est en jeu. Donc on souhaite qu'il y ait plus de prison pour que les peines soient exécutées et qu'elles soient accomplies au moins aux trois quarts de ce qui a été prononcé, tout simplement.
Donc plus longue aussi, par rapport à l'incarcération actuelle.
Bah, plus longue par rapport au niveau de la peine qui doit être accomplie. Mais il paraît logique que quand on est condamné à 10 ans, on puisse pas sortir au bout de 4 ans, comme c'est le cas actuellement. Il paraît logique qu'on y ait un temps d'épreuve minimal de 7 ans et demi. Je pense que 90%, d'ailleurs, on l'a vu dans un sondage qu'on a demandé au CSA, 90% des Français sont d'accord avec cette idée-là. Donc c'est une idée qui est très largement partagée. Comme d'ailleurs la plupart des propositions de l'Institut pour la justice, il y a un accord entre 70% et 90% sur l'ensemble des propositions de notre pacte. C'est dire à quel point il y a une majorité de citoyens qui soutiennent nos propositions, et c'est dire à quel point nos propositions qui sont, chez certains milieux, chez certains syndicats de magistrats, assez contestées, c'est dire le décalage qu'il peut y avoir entre ces personnes-là et le monde et les citoyens.
Alors, ces sondages, évidemment, sont contestés et sont naturellement contestables en matière de crimes, en matière, par exemple, d'opinion sur la peine de mort. L'opinion est très, très volatile selon le moment. S'il y a un crime terrible, odieux, et qui s'est produit, eh bien, si on fait un sondage, aussitôt après, on va avoir des Français qui vont être favorables à la peine de mort. Et puis, quelques mois plus tard, si les choses sont assez calmes, la raison revient, et au contraire, les Français vont se prononcer contre la peine de mort. Même si, de façon constante, le Front National, par exemple, table là-dessus, table sur cet électorat, sur cette opinion, pour réclamer un référendum sur la peine de mort. Il en va de même sur la criminalité en général et sur la sécurité et sur les politiques sécuritaire. C'est très variable selon les événements, selon les faits divers qui peuvent être mis en avant ou non. C'est très variable. Donc on peut pas tout à fait prendre pour argent comptant ces affirmations. C'est ce que fait par exemple quelqu'un comme Denis Salas, qui est magistrat, qui est universitaire, ancien juge pour enfants, qu'on a déjà entendu hier, qui était juge d'instruction et secrétaire de l'Association française pour l'histoire de la justice, et l'auteur d'un bouquin qui est sorti il y a quelques semaines chez les Arènes, dans l'éditeur des Arènes, La justice dévoyée, Denis Salas.
Alors Denis Salas, pour commencer déjà, dites-nous comment définir un peu la position depuis laquelle il parle et le poids croissant qu'ils prennent dans le débat public.
On peut dire qu'il y a trois piliers qui soutiennent les thèses de cet institut. Le premier pilier, c'est la promotion de la victime, qui est investie de droits que j'estime, moi, exorbitants par rapport à ce qu'elle devrait être dans la procédure pénale. Deuxième pilier, le scandale, dit-il, de l'inexécution des peines, et notamment des peines de privation de liberté. Et le troisième pilier, c'est la critique permanente de l'aléa d'un juge que cet institut estime irresponsable et coupé des vrais besoins de la société. La justice est à côté de la mission qu'elle doit remplir, d'après ses thèses. Elle doit protéger avant tout les citoyens, les honnêtes gens, et punir exemplairement, j'insiste sur ce terme d'exemplarité, les délinquants coupables. Donc, le fondement intellectuel de cette thèse, c'est ce qu'on appelle l'utilitarisme. La justice doit être utile, avant tout, à défendre les citoyens de la menace représentée par les délinquants. Au nom de cette utilité, c'est-à-dire dissuader les criminels de commettre des crimes, l'Institut propose une augmentation des peines, une théorie de la peine qui serait, au fond, neutralisation sélective des délinquants, et fait également la promotion de la dangerosité qui remplacerait la responsabilité. Donc on a une construction intellectuelle qu'il faut repérer pour la critiquer et montrer, à mon avis, qu'elle est fondée sur un présupposé anti-humaniste, une négation de l'être humain, dont il faut se protéger parce que c'est un individu nuisible pour la société, pour les honnêtes gens. J'ajoute une chose importante, parce que il y a la construction intellectuelle fondée sur l'utilité, et il y a l'émotion. Alors, le fondement émotionnel, c'est la réaction des victimes. Et l'Institut pour la justice développe cette construction pénale, cet arsenal pénal, à partir de l'émotion ressentie par ce type de victime, qui, au nom de la légitime émotion qu'elle ressent, va réclamer des peines qui vont, en quelque sorte, la dédommager de la souffrance subie. Simplement, et c'est là le point, à mon avis, capital et le grand risque de ce type de thèse, c'est que c'est la réémergence d'une vengeance, d'une vengeance. S'il y a une égalité des droits au sein du procès pénal entre l'accusé et la victime, eh bien on évacue complètement la place des représentants de la loi et on crée un duel, un tête-à-tête entre la victime et l'accusé. Et cette configuration-là fait émerger la vengeance avec des peines démesurées, illusoire, immédiate, toutes les caractéristiques de la vengeance, chair contre chair, émotion contre émotion, avec une explosion de l'inflation pénale qui est nécessairement contenue dans ce choc frontal entre l'émotion de la victime et l'exigence de répression attendue de la société à l'égard du délinquant.
Donc, que la justice est rendue au nom du peuple français.
Elle est rendue au nom du peuple français, mais elle n'est pas rendue au nom d'un individu, et qui plus est d'un individu victime, quelle que soit la légitime souffrance qu'elle a subie. Donc on voit bien que l'Institut pour la justice place les victimes dans une illimité de leurs revendications qui peut nous porter vers la démesure pénale.
Je propose qu'un condamné ne puisse pas bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle avant qu'il ait effectué au moins les deux tiers de sa peine. Ou alors que la République ne se donne pas la peine de prononcer une sanction.
Nicolas Sarkozy.
Aujourd'hui,
mars 2012,
la souffrance de la victime n'a pas son mot à dire.
À l'Institut pour la justice.
C'est un sujet très délicat. Je mesure le bouleversement qu'il introduira dans notre justice. Et pourtant, je propose de l'instaurer pour les décisions des cours d'assises, pour la détention provisoire et pour l'exécution des peines. La victime a le droit de donner son avis sur la remise en liberté de celui qui en a fait une victime. Ou alors, on ne reconnaît pas à la victime les droits qu'on reconnaît aux autres citoyens.
Xavier Bébin, vous parlez de l'aspect économique des choses. J'ai pas vu beaucoup de mentions sur justement cet aspect qui a vraiment pris de l'ampleur au cours des dernières décennies, de la criminalité économique et financière. Où on voit effectivement, des Madoff, des escroqueries, des ententes illégales sur les prix entre grands groupes qui s'allient pour flouer, pour voler concrètement les consommateurs, ou par exemple ces petits retraités qui ont pensé placer leur pécule pour leur retraite et qui se retrouvent lessivés. Ça fait partie de vos préoccupations aussi ?
Oui, mais c'est clair que l'Institut pour la justice s'est fondé sur la question des atteintes aux personnes, essentiellement. Donc,
le petit portefeuille d'une grand-mère, c'est quand même une sacrée atteinte à...
Oui, non, mais vous savez, on a demandé à un économiste de calculer le coût du crime et de la délinquance. Ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte, évidemment. Mais il est évident aussi que l'Institut pour la justice, sa première préoccupation, ce sont les atteintes aux personnes, les violences sexuelles, les violences gratuites. Et c'est ça qui a été au cœur de la création de cet institut.
Et c'est pour ça que depuis la création de cet institut, on vous voit souvent assez réagir publiquement à l'occasion de faits divers qui touchent les gens, qui sont particulièrement scabreux ou horribles.
Vous savez, il y a énormément de faits divers, énormément de crimes qui sont commis. Tous les jours, vous ouvrez le Parisien, vous voyez des crimes qui sont commis. Nous réagissons uniquement lorsque le système judiciaire a fauté, lorsque des mesures auraient dû être prises pour que ça n'arrive pas.
La corruption retarde le développement, cela crée le malheur, cela est réellement la malédiction de notre temps. Il faut plus de justice. Le premier pas, c'est de supprimer l'opacité dans les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux servent à cacher la corruption. C'est là où les dictateurs cachent le produit de leur butin de vol. Et c'est là où les multinationales font de l'optimalisation fiscale et ne payent pas d'impôts en réalité nulle part. Pour moi, il est temps que nous comprenions que nous nous sommes trompés, que le système ne marche pas. Et les paradis fiscaux y jouent un rôle important, qui est au détriment vraiment des habitants de cette terre. Pour moi, ça c'est vraiment révoltant.
On a reconnu la voix d'Eva Joly dans ce documentaire diffusé sur Arte, Halte à la corruption, c'était en novembre 2011. En effet, l'Institut pour la justice ne se préoccupe absolument pas de cette forme de délinquance, celle de l'évasion fiscale, celle des paradis fiscaux, qui pourtant concerne des milliards d'euros qui sont soustraits aux caisses de l'État, qui sont en moins dans les caisses de l'État, qui sont en moins dans le fonctionnement de l'économie. l'économie, dans la croissance, etc., ce qui constitue évidemment de véritables crimes contre l'humanité. C'est pas seulement des voleurs, des gens un peu malhonnêtes, c'est vraiment, il s'agit de crimes contre l'humanité, et cette délinquance en col blanc n'intéresse pas cet institut pour la justice qui se limite aux affaires d'atteinte aux personnes qui évidemment sont beaucoup plus sensibles et capables de mettre l'émotion collective en fusion. On retrouve Mathieu Bonduel, secrétaire général du syndicat de la magistrature.
C'est-à-dire que l'Institut pour la justice joue sur du velours parce qu'en réalité, il se sert d'un sentiment qui est profondément humain, qui est l'empathie à l'égard des victimes. Qui est contre les victimes ? Personne. Qui souhaite qu'il y ait davantage de meurtres ou de trafic de drogue ou de viols dans ce pays ? Personne. Personne. La justice, c'est quelque chose, tout le monde peut le comprendre, c'est quelque chose d'éminemment complexe. Décider si quelqu'un est coupable ou innocent, la question du doute, mais pas n'importe quel doute, un doute raisonnable au fond, parce que il s'agit pas de douter d'un détail et du coup de douter de tout s'il y a d'autres choses, la question de la peine, quelle peine infliger à quelqu'un, voilà qui est compliqué. Toutes les personnes qui, un jour ou l'autre, ont été jurées dans une cour d'assises, se sont bien rendus compte que juger, c'est toujours un petit peu plus compliqué que ce que certains veulent bien dire. Et c'est vrai que si face à cette complexité-là, extrême, parce que vous avez effectivement la souffrance de la victime d'un côté, et puis parce que vous avez de l'autre un être humain, qu'on le veuille ou non, hein, parce que certains parlent de monstres, et évidemment à l'Institut pour la justice on parle facilement de monstres, et le président de la République parle facilement de monstres, mais on parle d'êtres humains qui ont leur parcours, qui ont eu eux-mêmes leurs difficultés, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, c'est compliqué, c'est gris. Par définition, avec la justice, on est dans le gris. Et si face à cette complexité-là, vous arrivez avec votre bulldozer émotionnel, c'est-à-dire que vous mettez en avant une souffrance qui est réelle, que personne ne conteste et ne contestera jamais, et que vous dites que ça vous suffit comme argument, que ça vous tient lieu d'argument, bon bah il n'y a pas de discussion possible. Hein, si on va sur le terrain de l'identification, n'oublions pas qu'on peut aussi s'identifier à des gens qui ont été broyés par la machine judiciaire. Et oui, on peut prendre de la souffrance produite par la répression. Hein, et on peut la mettre en scène, cette souffrance-là. Moi, demain, je peux aussi faire une vidéo tire-larme en partant du cas de quelqu'un qui était incarcéré à tort pendant des années. Ça, on n'en parle pas à l'Institut pour la justice de ça. On demande l'incarcération. Mais on oublie l'affaire Doutreau, par exemple. On oublie les vies brisées de l'affaire Doutreau. Mais on peut jouer sur ce ressort-là aussi.
À 6h du matin, on sonne chez vous, on tape dans la porte et moi, je me réveille brutalement, brusquement.
Là-bas, si j'y suis.
Et là, j'aperçois à la porte d'entrée... Et...
10 septembre 2004.
4 policiers avec brassards policiers. Et là, ça a été pour me dire que j'étais impliqué dans une affaire de pédophilie et que si j'avais déjà entendu parler de l'affaire de pédophilie d'Outreau et que j'étais impliqué dedans.
C'est le 16 mai 2002 que c'est la dernière fois que j'ai vu mon gamin. Il m'a vu partir avec le monsieur. Bon, j'avais pas de menottes, rien. Mais il m'a regardé, il m'a dit « Papa, tu vas où ?» J'ai regardé mon gamin, je lui ai dit « Papa, il revient dans une heure » et j'aurais vu 2 ans après. Moi, comme je dis, ils m'ont pris pour de la merde, ils m'ont pris pour de la merde, quoi. Moi, j'étais en prison comme un vulgaire chien, quoi. C'est tout.
Nous voilà dans le cabinet de Maître Eolas. Maître Eolas, vous êtes très connu parce que vous avez énormément de lecteurs et d'abonnés à votre blog juridique. Vous êtes très connu, mais néanmoins agissant sous un pseudonyme. Mais on peut dire quand même que vous êtes un avocat. Et je sais, par ailleurs, que vous-même, vous êtes opposé, au moins à 2 reprises, à certains arguments du pacte 2012 de nos amis de l'Institut pour la justice. Qu'est-ce que vous avez donc contre eux, Maître Eolas ?
Mais contre eux, personnellement, rien. C'est plutôt eux qui ont quelque chose contre moi, puisqu'ils ont décidé de me faire un procès en diffamation pour avoir émis des doutes sur la fiabilité de leur compteur de signature, alors que moi, je n'ai intenté aucune action contre eux. Je ne fais que répondre à leurs arguments. Encore, argument, c'est un bien grand mot. C'est ça précisément que je leur reproche, c'est de ne pas argumenter, mais c'est de jouer sur la fibre de l'émotion, d'utiliser des techniques qui relèvent de la manipulation pure et simple.
Manipulation, vous dites.
Manipulation, c'est le mot que j'emploie, et je n'ai pas été poursuivi pour ce mot d'ailleurs. Enfin, peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne d'ailleurs. Pourquoi parlais-je de manipulation ? Parce que leur principal succès à ce jour, c'est l'appel qu'ils appellent le pacte 2012, qui a été fait en mettant en avant la parole du père d'une victime, Joël Sancier, dont le fils a été assassiné en août 2009. Et évidemment, bon, c'est le chagrin d'un père qui ne peut que bouleverser tout ce qu'il entend, c'est tout à fait normal. Et ensuite,
pendant qu'on est encore sous l'émotion, ce père appelle à signer la pétition de l'Institut pour la justice et de promouvoir le pacte 2012, c'est-à-dire des mesures juridiques qu'ils veulent imposer aux candidats. Alors que si on regarde un peu les faits de cette affaire, ça n'a rien à voir avec les propositions de l'Institut pour la justice. C'est-à-dire que si toutes les propositions de l'Institut pour la justice avaient été en vigueur en 2009, ça n'aurait rien changé à ce qui s'est passé. Donc on prend un argument émotionnel pour désarmer la raison, pour empêcher la réflexion, et en fait, pour laisser entendre, si ce père vous émeut, vous devez signer. Et si vous ne signez pas, c'est que vous êtes un monstre insensible à la souffrance de ce père. Alors évidemment, là-dessus, beaucoup de gens ont eu le réflexe de signer. En plus, qu'est-ce qu'une signature en ligne? C'est un clic, c'est quelques lignes à remplir.
1 700 000 signataires d'après l'Institut pour la justice.
Voilà, d'après le compteur de l'Institut pour la justice plus précisément. Et c'est ce doute-là que j'émettais publiquement pour mon plus grand malheur, puisque désormais, nos amis de l'Institut pour la justice m'ont dans le collimateur.
Mais pourtant, l'Institut pour la justice, comme beaucoup de ceux qui signent cette pétition, pense que la prison, plus elle sera dure, plus la peine sera dure, et la certitude de faire la totalité de sa peine sera affirmée. Ben, ça aura, effectivement, dans ce cas-là, une fonction aussi dissuasive.
Oui, alors ça, l'effet dissuasif de la peine. Ça fait 2 siècles, hein, comme je vous dis, qu'ils sont un petit peu en retard, que Cesare Beccaria, c'était même avant la Révolution française, a démontré qu'il n'en est rien. C'est que, en Angleterre, il y a eu un moment, une recrudescence, une augmentation énorme de vols à la tire, des pickpockets, qui étaient très, très doués. À tel point que la Chambre des communes a décidé, pour dissuader les pickpockets, que tout pickpocket qui se fera attraper serait pendu, automatiquement et publiquement, pour que tout le monde voit ce qui leur arrive. Comme ça les frapperait de terreur. Cette loi a dû être abrogée dans l'urgence parce qu'ils se sont rendus compte qu'au cours des exécutions publiques, il y avait une recrudescence des vols à la tire. Les pickpockets se rendaient en masse parce que tout le monde était tellement fasciné de regarder la mort, le goût du sang, qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait au niveau de leur ceinture. C'est quand même extraordinaire que des gens viennent tirer des bourses en voyant ce qui arrive. Ce qui leur arriverait s'ils se font attraper. Et pourquoi ça arrive? Tout simplement parce qu'ils ont la certitude, la conviction erronée pour certains d'entre eux, qu'ils ne se feront pas attraper. Parce que eux sont plus malins, ils sont plus habiles que celui qui est en train de se faire pendre, qui est un gros nul. Donc de toute façon, la pendaison ne leur fait pas peur, ce n'est pas pour eux. Où est l'effet dissuasif? Je vous rappelle les paroles de Badinter en 80, quand il soutenait l'abolition de la peine de mort et qu'il racontait qu'il avait appris que dans la foule qui criait à mort Buffet et à mort Bontemps autour du palais de justice de Troyes, se trouvait Patrick Henry, qu'il allait défendre 4 ans plus tard pour le meurtre d'un enfant, qui lui aussi criait à mort Buffet, à mort Bontemps. Vous voyez l'effet dissuasif de la peine.
Xavier Bébin, il y a une idéologie dominante, c'est le constat que vous faites dans la sphère juridique française en manière générale. Et vous apportez d'autres arguments.
Oui, exactement. Il y a une forme de pensée unique dans le monde judiciaire. Il y a quand même une dérive qui est observée par beaucoup de citoyens d'une justice qui se préoccupe de plus en plus de règles, de droits, sans se préoccuper suffisamment de protection des citoyens, alors que la justice pénale, elle est au départ instituée pour cela, pour éviter les actes de vengeance individuelle et pour protéger les citoyens et bien des autres citoyens. Et je pense que quelle que soit la position qu'on peut avoir vis-à-vis de nos arguments, on joue un rôle d'utilité publique, au moins à apporter une contradiction, parce qu'on peut pas se satisfaire d'un monde judiciaire replié sur lui-même, qui brasse toujours les mêmes idées, sans avoir de contre-pouvoir, sans avoir de contradiction. Notre objectif, c'est de développer des idées qui ne sont pas forcément extrêmement répandues dans le champ pénal, apporter des expertises criminologiques qui sont réalisés, qui peuvent être réalisés au Canada ou dans des pays anglo-saxons et qui sont assez peu ici. Je pense par exemple aux méthodes d'évaluation de la dangerosité des criminels qui sont utilisées dans tous les autres pays, alors qu'il y a un retard profond dans le niveau d'expertise français parce qu'on joue sur...
Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est la voix de la chaîne.
Derrière ça, il y a une idée que promeut beaucoup l'Institut pour la justice, une technique.
Mathieu Bonduel.
Qui a été utilisée au Canada notamment, c'est ce qu'on appelle les échelles actuarielles. C'est-à-dire que c'est une manière d'évaluer votre dangerosité supposée en fonction d'éléments statistiques. Selon votre parcours, votre consommation de stupéfiants, vos antécédents familiaux, etc. Bon, moi sur cette échelle actuarielle d'ailleurs, j'ai un score assez élevé. Il suffit d'avoir des parents divorcés, d'avoir été célibataire longtemps, d'avoir connu des ruptures sentimentales, d'avoir des conduites addictives, le tabac par exemple, etc. pour avoir son score qui augmente. Hein. Bon, et puis surtout...
Donc vous êtes potentiellement dangereux, vous l'avez
dit. Je pense que nous sommes tous potentiellement dangereux. C'est là l'impasse totale du discours de l'Institut pour la justice, c'est de croire qu'on va pouvoir pronostiquer la dangerosité des gens. Donc quand ils parlent de criminels dangereux, c'est ça qu'ils veulent dire. Ils veulent dire qu'ils vont demander à des experts de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils ne savent pas faire et ce qu'ils ne sauront jamais faire, c'est-à-dire avoir un pronostic. Ils peuvent faire un diagnostic, mais ils peuvent pas avoir un pronostic. Sinon, on est dans Minority Report de Steven Spielberg, c'est-à-dire qu'on est dans le pré-crime, et au fond, on arrête les gens ou on les enferme avant qu'ils aient fait quoi que ce soit, parce qu'on sait déjà qu'en réalité, ils sont dangereux. Je suis désolé de le dire, on ne peut pas savoir qui va passer à l'acte. Ça n'est pas écrit sur la tête des gens, et même quand on leur fait passer des tests, les plus sophistiqués soient-ils, on ne peut pas avoir de certitude en la matière. Donc ça, c'est une logique aveugle qui est anti-humaine, je dirais, et qui ne tient pas compte de ce que sont les hommes. Donc, on fait de la sensiblerie d'un côté, en jouant sur une souffrance réelle, mais dont on se sert et qu'on étale, et de l'autre, on oublie que même les gens qui ont commis des faits graves sont des êtres humains, et qu'il n'y a pas deux catégories d'êtres humains, il n'y en a qu'une seule. Ça s'appelle l'humanité.
Que ça nous plaise ou non.
Et que ça nous plaise ou non. Et c'est quand on commence à nier l'humanité de ceux qui ont fait des choses graves du point de vue des valeurs de l'humanité, qu'en fait, on s'éloigne de l'humanité. Je me refuse à entrer là-dedans. La vie d'un être humain vaut celle d'un être humain. Ça ne veut pas dire que je suis contre la sanction. J'ai d'ailleurs moi-même davantage sanctionné de monde que n'importe quel militant de l'Institut pour la justice. Il se trouve que moi, j'ai déjà eu à sanctionner des délinquants et des criminels. Et je n'en parle pas donc comme d'une abstraction. Concrètement, mettre quelqu'un en prison, c'est quelque chose. Il faut aussi le faire pour s'en rendre compte. Et il faut parfois le faire. Hein, mais dire qu'il faut le faire toujours plus longtemps, et sans faire dans le détail, c'est oublier qu'on a affaire à des êtres humains. Voilà.
Étonnant, Institut pour la justice, un lobby véritablement, qui prend très souvent pour cible la justice française en général, les magistrats et tout le système, l'accusant de laxisme, c'est le grand mot, et demandant plus des délinquants, mais une certaine catégorie quand même de délinquants, au nom des victimes. Un certain nombre de personnes, effectivement victimes, qui s'étaient engagées dans cet institut, se sont rétractées par la suite en critiquant publiquement les méthodes et les buts poursuivis par cet institut, qui, selon certains de ceux qui se sont retirés, poursuivraient bel et bien des buts politiques en exploitant les victimes et l'émotion dégagée par les victimes. On retrouve Xavier Bébin, donc porte-parole de cet institut.
On a un retard carcéral à combler, si je comprends bien, en France. Et ça va passer par la construction de nouvelles prisons, mais alors là, en ces temps de crise, ça va nous coûter une fortune. Sachant que je voyais que le détenu coûte 3 400 € par mois et par détenu en 2010. 3 400 €. Alors si on en rajoute encore, ça va nous coûter une fortune, cette affaire.
Vous savez, l'économiste Jacques Bichot a chiffré le coût de la criminalité à 150 milliards d'euros par an. Et nous, notre analyse, c'est que la criminalité coûte beaucoup plus cher que la prison, et que la prison, si on construisait les 30 000 places que nous appelons de nos voeux, ça permettrait de réduire la criminalité de 15%, 15% la criminalité, d'après les études criminologiques dont nous disposons, et ça économiserait énormément à la société.
Allez, 30% de places en plus, 30 000 places en plus égale 15% de criminalité en moins.
C'est notre évaluation. Si on a 30 000 places de prison en plus, on aura 15% de criminalité en moins. C'est quand même une vraie avancée. Et ça, puisqu'on parle de finances, économiserait un montant très important à la société, parce que les crimes coûtent cher, parce que les vols, les violences et le vandalisme coûtent à la société. Donc pour nous, c'est un investissement, en fait, pour l'avenir, et qui doit être fait.
Et là, ça me donne une idée. Vous me dites souvent, plus en pensez, pourquoi on ferait pas 60 000, et comme ça, on aurait place de prison en plus, et comme ça, on aurait une chance de baisser de 30% de la criminalité, si on double les chiffres.
This recorded call is from an inmate at a California state correctional facility.
Là-bas, si j'y suis, 26 février 1999.
Frankly, it's...
Franchement,
typically, politicians
c'est typiquement politique.
Have a four-year mentality.
Ils ont une mentalité, une vision sur 4 ans, les politiciens. C'est pour ça, ils sont élus pour 4 ans.
Fixing the educational family problem
régler les problèmes de famille et d'éducation, ça prend 20 ans.
Issue.
Et encore plus.
And it's not popular with
et
most
ça ne marche
people.
Pas beaucoup avec les gens, c'est pas populaire auprès de l'électorat.
You know what's popular.
Tu sais ce qui est
build more jails,
construire des prisons et mettre les gens en prison.
A quick fix.
C'est ça qui marche, le truc solution rapide.
So society here is not ready.
Et la société ici est pas prête
for long-term solutions.
Pour des solutions à long terme.
Never has been.
Et elle n'a jamais été prête.
C'est un constat un peu triste que vous faites.
Oh, absolutely. Well, it's true though. I mean, it's a sad, sad commentary.
Oui,
and it's not just LA County.
C'est pas simplement dans le comté de LA, c'est partout.
Alors, ça veut dire que la prison n'est pas une solution.
Oh, it never has been the solution.
Ça n'a jamais été la solution.
It's only the solution for the worst of the worst.
C'est seulement la solution pour les pires des pires.
If you can turn them around through mentoring programs,
les amener par des programmes mentoring, c'est-à-dire de prise en charge à travers des programmes scolaires qui sont tous très chers,
then maybe you'd be successful.
Et là, peut-être que ça réussirait effectivement.
Mais on le fait pas.
Not to any great degree.
Non, pas à une échelle importante, seulement à une échelle toute petite.
It's expensive.
Ça coûte cher.
And it's not sexy.
Et c'est pas sexy.
It's not.
Ça l'est pas.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes, est-ce que ça veut dire qu'ici, c'est une usine où on fabrique de la délinquance et de la criminalité?
Well, I don't think it creates that.
Je pense pas que ça la crée.
It just does nothing to address it.
Ça fait rien, ça n'y change rien.
They come to jail for punishment.
Ils viennent en prison pour une punition.
Not for rehabilitation.
Pas pour la réhabilitation.
Pas de réhabilitation.
Si je comprends bien, Denis Salas, ce qui est à l'œuvre dans ce courant d'idées, et que vous décrivez aussi très bien dans votre livre, comme étant un sous-produit en fait de l'idéologie ultralibérale.
Ah oui. Pour moi, c'est absolument clair. La doctrine néolibérale défend l'idée que l'homme est mû par ses intérêts, qu'à partir du moment où vous dites que le délinquant sera averti par la loi, aura un prix à payer et une peine à purger, il n'a aucune excuse. Et que dès lors qu'il commettra un délit, il saura par avance la peine qu'il encourt. Donc à partir du moment où vous posez cette équation, vous considérez illusoirement, à mon avis, que la société est protégée, parce que le délinquant aura été averti, et que la peine pourra être prononcée en fonction de l'acte qu'il a commis. Schéma automatique.
Ouais, on aura fait une étude de marché, un business plan de la vie.
C'est un marché. La loi est un avertissement, une information sur un donné sur un marché. Le crime est le mauvais calcul fait par le délinquant et la peine, c'est le prix à payer pour le mauvais calcul qui a été fait. Donc, c'est vraiment le choix de la délinquance qui est sanctionné. Et s'il est puni, il est puni à tel quantum. Alors, et c'est le point important qui est tout à fait lié à ce qu'on vient de dire. Le système fonctionne, mais il faut pas d'aléas. Il faut que le délinquant soit certain quand il commet un acte, d'avoir la punition correspondante. Si entre les deux, vous avez un aléa, la sanction est aléatoire et négociable pour le délinquant, dit l'Institut pour la justice, le système ne fonctionne plus. Et l'aléa, c'est qui? L'aléa, c'est le juge.
C'est le maillon faible.
C'est le maillon faible, exactement. C'est le maillon faible, parce que le juge, lui, il ne va pas être tenu par l'automaticité entre le crime et la sanction. Il va individualiser quelle faute, il va interpréter quelle erreur, il va adapter quel danger. Il va faire, lui, les mauvais choix. Donc il faut se passer du juge autant que faire se peut et s'appuyer pour une sanction ferme sur une administration, ce qu'on appelle une chaîne pénale, le mot d'ailleurs le dit bien, qui va fermement, sans interpréter, adapter, individualiser, tenir ce lien d'automaticité entre le crime et la sanction. Or, le problème, c'est que dans cette quête de certitude de la peine, par l'effet de la dissuasion que propose l'Institut pour la justice, nous sommes, à l'inverse, dans une incertitude consubstantielle de la peine, parce que le pouvoir de punir dans une démocratie, il appartient à la justice, il n'appartient pas au pouvoir exécutif.
Voilà, c'est la séparation des pouvoirs.
C'est la séparation des pouvoirs. C'est exactement ça. Donc, là, vous touchez un pilier de la démocratie. Parce que si vous écartez complètement la justice dans l'application des peines, des lois, en l'occurrence, vous recréez un régime totalitaire. Où l'exécutif, le pouvoir politique, élu, parce qu'il est élu, pourra tout faire, y compris créer des peines automatiques avec des sanctions immédiates. Donc, on est dans un fantasme totalitaire extrêmement inquiétant.
Maître Eolas, est-ce que vous répondez à ceux qui ont de bonne foi signé cette pétition en disant que la justice est laxiste et qu'elle laisse trop de droits aux coupables et pas assez aux victimes?
Alors, ce que je leur dis, mais c'est d'aller voir des audiences. Les audiences sont publiques. C'est un principe essentiel en démocratie. J'invite tous vos auditeurs à aller voir et à tous ceux qui ont envie de signer des pétitions comme ça et qui, pour beaucoup, c'est une idée reçue tellement répandue, pensent que la justice est laxiste et généralement ils pensent que la justice est laxiste, qu'ils aillent voir comment ça se passe. Des affaires où ils ne connaissent personne. ni la victime, ni le prévenu. Donc, ils n'auront pas de préjugés contre l'un ou contre l'autre. Ils verront le comportement de la victime à l'audience, le comportement du prévenu, les arguments, bon, tous les aspects juridiques leur échapperont peut-être un peu. Mais encore que, à Paris, un petit groupe de retraités que les avocats connaissent bien, qui vont à toutes les audiences et qui sont devenus des commentateurs assez pointus maintenant sur tel ou tel avocat. On prend parfois leur avis, alors j'ai été bon ou pas. Et eux-mêmes trouvent ça passionnant. Là, vous allez voir comment la société, en votre nom, puisque tous les jugements commencent par les noms, au nom du peuple français. Bien, allez voir comment la justice est rendue en votre nom. Les juges sont vos mandataires, de par la loi. Allez voir comment ça se passe réellement et comment la justice sanctionne. Et tous ceux que je connais qui sont allés sur mes conseils ou d'autres voir des audiences, en sont revenus transformés. Donc, n'hésitez pas. Allez-y. La prophylaxie contre les dérives auxquelles nous emportent notre empathie et nos sentiments.
Ce que certains ont appelé le populisme pénal.
Oui, absolument. C'est une expression qui est tout à fait exacte. Mais le remède est connu depuis très longtemps. C'est même la France qui l'a réinventé il y a deux siècles. C'est la raison. C'est la réflexion. C'est ne pas se laisser emporter par les sentiments. C'est très bien, les sentiments. Mais il faut les cantonner au cœur, pas à la tête. À la tête, on garde la réflexion et les idées. Il dit bon, que s'est-il passé réellement? Que dit la loi? Comment a-t-elle été appliquée? Et quand on prend cet angle de vision qui est le seul valable dans une société démocratique, on se rend compte que la justice est une machine qui fonctionne plutôt bien et même miraculeusement bien, vu le manque terrible de moyens dans lequel elle est.
Merci Maître Eolas, merci à Mathieu Bonduel, à Denis Salas et à Xavier Bébin. C'était un reportage de Guy Vanctil. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site là-bas.org ou sur la page Facebook de l'émission. Rémi Quincé et Pierre Monsigny étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chomton et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touyez et Grigory Salomonovitch. Attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Non mais tu le crois ça? Hier, 23h, retour de week-end, en panne au milieu de nulle part.
Attends, ne me dis rien. La dépanneuse te dépose sur le parking du garage le plus miteux du patelin, forcément fermé. Bref, t'es piéton et ça va te coûter un peu.
À la GMF, les idées reçues, nous, on les plaque. En cas de panne, non seulement nous vous venons en aide, mais en plus, nous pouvons prendre en charge et payer les réparations. C'est ça, une bonne assurance.
GMF, assurément humain.
Voir conditions et détails des prestations en agence ou sur gmf.fr.
16h sur Inter, ça nous laisse un peu de temps pour rejoindre la manif. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Poser le drapeau rouge et servir la France, Nicolas Sarkozy est sur le point de terminer son discours. Place du Trocadéro à Paris, devant des dizaines de milliers de partisans de l'UMP, le président candidat s'est présenté tout d'abord en héritier du général de Gaulle.
Je veux le dire à tous ceux qui nous contestent le droit de nous rassembler aujourd'hui. Nous nous considérons comme les héritiers, je dis bien les héritiers de ceux qui ont lutté pour le droit de grève, pour la liberté syndicale et pour les congés payés. Et je veux le dire à tous ceux qui ont défilé aujourd'hui, non pas pour le travail, mais contre nous. Nous nous considérons comme acteurs du progrès social autant que vous, et sans doute même davantage que vous. Vous avez abîmé le travail en prétendant le défendre. Je le dis aux partis de la gauche et aux syndicalistes qui se sont fourvoyés dans la politique. Nous sommes tous les héritiers de ceux qui se sont battus pour nos droits, pour notre dignité, pour notre liberté. Ce que vous avez fait ne vous donne aucun titre à vous en arroger le monopole. Nous sommes le peuple de France et nous assumons l'histoire de France dans sa globalité.
Nicolas Sarkozy, donc place du Trocadéro à Paris, des propos recueillis par Anne-Laure Danier. Au syndicat, il a donc lancé un message, servez les salariés, il n'y a pas de démocratie sans liberté syndicale, le dialogue social est fondamental. Nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons pas d'adversaires, nous avons la France dans le cœur. Nicolas Sarkozy a aussi vanté le travail et dénoncé le partage du temps de travail qui, selon lui, crée le chômage. Et puis le président candidat a aussi passé en revue tous ses thèmes de campagne, les frontières, le modèle social, l'école, la réforme des retraites. Nous ne voulons pas du socialisme, nous sommes le peuple de France, a donc déclaré déclaré à la foule en liesse Nicolas Sarkozy. Et pendant que Nicolas Sarkozy parle place du Trocadéro, les syndicats, eux, ont pris le relais à Paris des défilés en région. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, là aussi, ont commencé à défiler entre la place d'Enfer Rochereau et la Bastille. Juste avant le début de la manifestation, Bernard Thibault a prévenu, c'est un 1er mai revendicatif. Le leader de la CGT a déclaré ouvertement aujourd'hui voter pour François Hollande dimanche. Marine Le Pen, elle, lors de son discours ce matin, place de l'Opéra, toujours à Paris, a elle déclaré qu'elle voterait blanc dimanche, mais la présidente du FN laisse ses électeurs libres de leur choix. Le tribunal du Bronx ne confirme pas pour l'instant l'information du New York Post. Selon le quotidien, le juge du Bronx a rejeté aujourd'hui la demande d'immunité diplomatique de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire qui l'oppose à Nafissatou Diallo. Si c'est confirmé, si cette information donc est confirmée, ça veut dire que la plainte au civil de la femme de ménage du Sofitel suivra son cours. Les combats au Mali entre les ex-putschistes et les forces loyales d'Amadou Toumani Touré ont fait 14 morts et 40 blessés, c'est ce que dit aujourd'hui l'hôpital de Bamako. Enfin, Alexander Del Oen, le champion du monde norvégien du 100 mètres brasse, est mort aujourd'hui d'une crise cardiaque. Il était âgé de 26 ans, il constituait l'une des meilleures chances de médaille de son pays aux prochains Jeux de Londres. Alexander Del Oen est mort alors qu'il participait à un stage d'entraînement en altitude dans l'Arizona aux États-Unis. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Cette semaine dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Bibi Tanga, Mans Fictia et Zoufris Maracas.
Tu savais d'où je venais, tu me parlerais pas pour rien, tu me laisserais vivre ici vu que toi aussi t'es un gamin.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page du Pont des Artistes. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
France Inter. La différence.
Bonjour Frédéric Clodéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia, très bientôt.
Ah bah oui, bah ah bah demain, alors.
Oui, bah même tout à l'heure à 17h, vous ah bah êtes oui, à son antenne quand même.
Oui, je suis là, ouais.
À bientôt, tout à l'heure. Au revoir.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Le 1er mai est un jour de fête vraiment collective et un concert orchestral, c'est censé être une fête collective de même. Je vous propose donc quelques belles réussites à plusieurs pour commencer la rencontre du chef d'orchestre d'origine hongroise, Georges Sell, avec l'orchestre du concert Rebao d'Amsterdam. J'aime bien dire concert Rebao hein, en grattant un peu la gorge. Et c'est Rosamonde que voici, musique de ballet de Franz Schubert sur un livret absolument sans intérêt, mais peu importe, la musique est restée. Et par exemple, dans la deuxième musique de ballet, elle est délicieuse de fraîcheur. Thank you. Deuxième musique de ballet de Rosamond, une musique de scène de Franz Schubert, interprétée par le Royal Concertgebouw Orchestra, dirigé par Georges Selle. Et on trouve dans